Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 24, Daf Kaf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Bishvil Shel Kramim. Il s'agit d'un cas où ces deux pigeonniers se trouvent dans un sentier qui se trouve parmi les vignes. Comme nous l'avons dit précédemment, les pigeons sont attirés par les vignes ou par les arbres, et c'est pour cela que même le pigeonneau qui ne s'est pas encore volé est attiré par ces vignes et peut sortir du rayon de 50 coudées autour du pigeonnier. Et c'est pour cela que même si ce pigeonneau est découvert en dehors du rayon de 50 coudées autour du pigeonnier, quand même, nous l'accorderons au propriétaire du pigeonnier le plus proche. Des im ita de me'al ma'ate, parce que s'il y a une possibilité que ce pigeonneau vienne de l'extérieur, qui vint de midade, puisqu'il s'agit d'un pigeonneau qui sautit, qui ne s'est donc pas encore volé, l'omatsiate, il ne peut pas venir de l'extérieur, même avec l'aide des vignes, c'est-à-dire même s'il est attiré par des vignes, parce qu'il y a le principe suivant, de kol de midade, tout oiseau qui sautit, vehadar chazele lekine, et lorsqu'il se retourne, il peut voir encore le pigeonnier d'où il vient, midade, il continue à sautiller et s'éloigne de son pigeonnier, vehilo, mais s'il ne peut plus voir son pigeonnier, l'omidade, il n'avance plus. C'est pour cela donc, puisque ce pigeonneau a été découvert dans un sentier qui court parmi les vignes, et les autres pigeonniers sont justement cachés par ces vignes, ce pigeonneau ne peut pas venir des autres pigeonniers. Il ne peut venir que de l'un de ces deux pigeonniers, et c'est pour cela donc que ce pigeonneau sera accordé au propriétaire du pigeonnier le plus proche. Mais s'il pouvait venir de l'extérieur, effectivement, nous dirions que ce pigeonneau appartient à celui qui l'a découvert, comme nous l'avons expliqué. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Kaf Gimel. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Kaf Dalet à la fin de la troisième ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent l'enseignement de Rabbi Hanina qui dit que lorsque nous pouvons trancher un doute, soit selon le principe de la majorité, soit en suivant le principe de la proximité, nous tranchons ce doute en suivant le principe de la majorité. Alors, Amar Abaye, Abaye dit là-dessus, Afanan Namitanina. Nous avons aussi enseigné une Mishnah de laquelle nous pouvons déduire le même principe. Il s'agit d'une Mishnah dans Maseret Nida Daf Yud Zayin, qui concerne l'impureté de la femme causée par la menstruation. En effet, la femme devient impure à la suite d'un écoulement sanguin, mais ce, uniquement si nous pouvons déterminer que celui-ci provient de l'utérus. S'il provient d'ailleurs, par exemple, de l'appareil urinaire, la femme ne sera pas impure. Alors la Mishnah dit, « Dam shenimtsa beprosdor » du sang qui a été découvert dans le vagin à la suite d'une vérification intime, « Sveko tame » même lorsque nous avons un doute quant à sa provenance, quand même, ce sang est considéré comme étant impur, la femme est donc impure, « Shechezka tomina mekor » parce que nous estimons que celui-ci provient de l'utérus. « Vafalgav dika liad mekarva » et cela, bien qu'il existe une cavité au-dessus du vagin, vraisemblablement la vessie qui se trouve plus proche de cet endroit où le sang a été découvert que l'utérus. Quand même, nous dirons que cette femme est impure parce que la majorité des écoulements sanguins proviennent de l'utérus. Donc nous voyons que lorsque nous pouvons résoudre un problème en suivant le principe de la majorité ou en suivant le principe de la proximité, nous le résoudrons en suivant le principe de la majorité. Amarle, Rava lui a posé la question suivante. Rov ou Matsui Kamar, est-ce que tu nous amènes un cas où non seulement l'une des possibilités est majoritaire, mais en plus c'est la possibilité la plus courante? En effet, non seulement les écoulements sanguins provenant de l'utérus sont majoritaires, mais en plus c'est la possibilité la plus courante, parce que le sang provenant de l'appareil urinaire, qui ne vient que dans le cas d'une hémorragie interne, est un cas très rare. Rov ou Matsui, l'éka le mande amar. Dans le cas où l'une des possibilités est non seulement majoritaire, mais en plus c'est la possibilité la plus courante, il n'y a personne qui dira le contraire, que c'est cette possibilité que nous suivrons et nous résoudre ce problème, et nous n'appliquerons pas le principe de la proximité. De Tane Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, Dam hanimtsa beprosdor, du sang qui a été découvert dans le vagin lors d'une vérification interne, Chayavin alav albiat migdash. Cette femme est déclarée impure. Si elle pénètre dans le Beth Amikdash, ou une autre personne qui l'a touché, elle se sera rendue coupable d'avoir transgressé l'interdiction de pénétrer dans le Beit HaMikdash en étant impure. Elle devra donc offrir un korban khatat. Et cela, bien qu'il existe une interdiction d'offrir un korban khatat lorsqu'on n'en a pas l'obligation. Ve sorfin alav et atoma. Et si cette femme touche de la touma, on devra la brûler, parce qu'elle est devenue impure, bien qu'il soit interdit de brûler de la touma pure. Rava comprend que si cette femme était déclarée impure uniquement selon l'opinion de Rabbi Hanina, il y a d'autres Amoraïm qui discutent avec lui, on n'aurait jamais dit que cette femme doive offrir un korban khatat ou qu'on brûle la touma que cette femme a touchée. Forcément donc, c'est qu'ici il y a une raison particulière, c'est que cette possibilité que cette femme soit impure, c'est non seulement en suivant le principe de la majorité, mais en plus, c'est le cas le plus courant. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune question à ce sujet, et donc cette femme devra offrir un korban khatat, et on brûlera la touma qu'elle a touchée. Selon le Bar, nous lisons « Amar Rava, Shma Mina Mide Rabbi Chia Tlat ». Nous pouvons déduire de cet enseignement de Rabbi Chia trois choses. Premièrement, « Shma Mina Rov Vekarov Alachacharov ». Si un problème peut être résolu, soit selon le principe de la majorité, soit selon le principe de la proximité, nous le résoudrons en suivant le principe de la majorité. Ou Shma Mina, nous pouvons aussi déduire de cet enseignement de Rabbi Chia, Ruba Doraita. Ce principe selon lequel nous suivons la majorité pour résoudre un problème a été énoncé par la Torah. En d'autres termes, même lorsque ce problème qui se lève est un problème Mina Torah, quand même, nous le résoudrons en suivant le principe de la majorité. Et cela, comme le précise le Tosfot, même si cette majorité n'a été établie que statistiquement. Comme dans notre cas, où nous établissons que la majorité des écoulements sanguins proviennent de l'utérus. Contrairement au cas où nous suivons la majorité dont les composants sont devant nous. Par exemple, dans le cas où le jugement est rendu en suivant la majorité des voix des juges. Ou Shma Mina, nous pouvons aussi déduire de cet enseignement de Rabbi Chia, Ita le de Rabbi Zira, que la loi enseignée par Rabbi Zira est juste. En effet, dans la Gemara Ktuvot Daf Tetva, il est ramené une discussion concernant un morceau de viande que l'on a découvert dans la rue. Alors l'un des avis est qu'il faudra, pour permettre cette viande, non seulement que la majorité des bouchers de cette ville vendent de la viande cachère, mais aussi que la majorité des bouchers des alentours vendent aussi de la viande cachère. Finalement donc, nous avons deux raisons pour appliquer le principe de la majorité, et c'est uniquement dans ce cas que nous permettrons cette viande. D'Amar Rabbi Zera, alors que Rabbi Zera dit, Afalpish et Daltot Medina Neulot, bien que les portes de la région sont fermées, donc il est impossible que la viande vienne de l'extérieur, finalement, il n'y a qu'une seule raison pour appliquer le principe de la majorité, c'est que la majorité des bouchers de cette ville vendent de la viande cachère, quand même, celle-ci sera permise. Alors l'Agmara dit que de l'enseignement de Rabbi Chia, nous pouvons déduire que c'est l'opinion de Rabbi Zera qui est juste. De Ha'isha, parce que le cas de la femme que nous avons mentionné précédemment, de Chidaltot Medina Neulot Damia, ressemble au cas où les portes de la région sont fermées. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule raison pour appliquer le principe de la majorité, c'est que la majorité des écoulements sanguins proviennent de l'utérus. Il n'y a pas d'autre raison pour appliquer le principe de la majorité. Vafiloachi, bien qu'il soit ainsi, Kaz Lilian Batar Ruba, nous appliquons le principe de la majorité pour déclarer que cette femme est impure. Alors la Gemara demande, Veha Rava, Hu Dekamar Rovu Matsui Lekalman de Amar. Pourtant, c'est Rava qui a dit plus haut que lorsque, dans le cas d'un doute, où l'une des possibilités est non seulement majoritaire, mais en plus c'est le cas le plus courant, il n'y a personne qui dit le contraire. Et finalement donc, puisque comme nous l'avons dit, non seulement la majorité des écoulements sanguins proviennent de l'utérus, mais aussi c'est le cas le plus courant, donc finalement il ne pourrait pas avoir de preuve ici pour l'opinion de Rabbi Hanina. Donc comment se fait-il que Rava dit que nous pouvons déduire de l'enseignement de Rabbi Chia que l'opinion de Rabbi Hanina est juste, comme quoi lorsque nous pouvons résoudre un problème, soit en suivant le principe de la majorité, soit en suivant celui de la proximité, nous suivons celui de la majorité pour résoudre ce problème. L'Agma répond, Hadar be Rava me'ahi. Rava s'est rétracté de ce qu'il a dit plus haut, parce que le fait que l'une des possibilités soit plus courante ne change rien. Et c'est uniquement parce que nous appliquons le principe de la majorité, même lorsque nous pouvons appliquer celui de la proximité, que nous déclarons cette femme impure, comme l'a dit Rabbi Hanina. Itmar, il a été enseigné une discussion, Chavit Chetzafa Banahar, si l'on a découvert un tonneau de vin qui flottait sur un fleuve, le problème se pose, est-ce que ce vin appartenait à un goy et il est donc interdit, ou bien il appartenait à Israël et il est permis. Alors Amar Rav, Rav dit là-dessus, Nimtzet keneged ir sheruba Israël, si ce tonneau de vin a été découvert en face d'une ville dont la majorité des habitants sont Israël, Moutar, ce vin est permis, nous estimons que ce tonneau de vin vient de l'un des habitants de cette ville. Keneged ir sheruba nochrim, mais si ce tonneau de vin a été découvert en face d'une ville dont la majorité des habitants sont goy, Asira, ce tonneau de vin est interdit, parce que nous estimons que ce tonneau de vin appartenait à l'un des habitants de cette ville. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Afilu nimtzet keneged ir sheruba Israël, même si on a découvert ce tonneau de vin en face d'une ville dont la majorité des habitants sont Israël, Asira, ce vin est quand même interdit. Et Mour, parce que nous pouvons dire, mais Ihi Dakira Atai, ce tonneau de vin provient d'un endroit qui s'appelle Ihi Dakira, qui se trouve en amont de l'Euphrate, dont la majorité des habitants sont goy. En d'autres termes, ce vin peut venir d'ailleurs où la majorité des habitants sont goy. Alors la Gemara demande, Lema Bedera Bichanina Kamiflage, peut-être que ce que nous dirons, que Rav et Shmuel sont en discussion sur le principe de Rabbi Hanina, Demar Itle de Rabbi Hanina. Nous dirons donc que Shmuel est en accord avec l'enseignement de Rabbi Hanina. Donc, nous appliquons le principe de la majorité, même dans le cas où nous pouvons appliquer le principe de la proximité. Donc, même si ce vin se trouve à proximité d'une ville où la majorité des habitants sont Israël, nous pouvons dire que ce vin provient d'ailleurs et la majorité des habitants du monde sont goy. Et c'est pour cela, donc, que ce vin sera interdit. Umar l'etle de Rabbi Hanina, alors que Rav est en désaccord avec l'enseignement de Rabbi Hanina, selon Rav, donc, nous suivons le principe de la proximité, même lorsque nous pouvons appliquer le principe de la majorité. Et c'est pour cela, donc, que lorsque ce vin est découvert en face d'une ville dont la majorité des habitants sont Israël, le vin sera permis, même si nous pouvons appliquer le principe de la majorité et de dire que ce vin provient d'ailleurs, où la majorité des habitants sont goy. Il se peut donc que la majorité des habitants des alentours sont goy. Alors la Gemara réfute l'eau. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre ces discussions entre Rav et Shmuel. Toujours pourrais-je te dire que, de Kul Alma et Leu de Rabbi Hanina, que soit Rav, soit Shmuel sont en accord avec l'enseignement de Rabbi Hanina. Donc, lorsque nous pouvons appliquer le principe de la majorité, nous l'appliquerons, même dans le cas où nous pouvons appliquer le principe de la proximité. Ici, c'est cela leur sujet de discussion. Demar Savar, parce que Rav pense, Im ita de mehi dakira atai. S'il est vrai que ce tonneau de vin provient de l'endroit appelé Ihi Dakira, où la majorité des habitants sont goy, il coulait ou pchourait havu matbeela. Les écueils et les tourbillons se trouvant dans le fleuve auraient coulé ce tonneau, il ne serait jamais arrivé ici. Forcément donc, ce vin provient de cette ville à proximité de laquelle nous l'avons découvert. Et c'est pour cela que nous suivons le principe de la proximité pour le permettre. Umar Savar, alors que Shmuel pense, Harifa de Nahara, Nakat Ve'atai, il y a la possibilité que ce tonneau de vin soit tombé au milieu du fleuve et le courant l'a emporté jusqu'ici. Il n'a pas rencontré d'écueil ni de tourbillon. Et c'est à cause de cette possibilité que Shmuel interdit ce vin. Hahu Chatzva de Chamra, Dishtakar, Bepardessa de Orla. Il y a un fût de vin qui a été découvert dans un vignoble de Orla, c'est-à-dire dans les trois années qui ont suivi sa plantation. En effet, dans les trois années qui suivent la plantation d'un arbre, tous les fruits qui poussent sur cet arbre sont interdits. Alors, comme le précise le Tosfot, la Gemara d'Avodah Zarah d'Afaïn dit qu'à l'époque, la majorité des voleurs était Israël. Par conséquent, nous pouvons estimer que ce vin qui a été produit par un voleur a été produit par un Israël. Sharia Ravina, Ravina l'a permis. Alors, la Gemara demande l'Ema Mishum de Savarla de Rabbi Hanina. Peut-être que nous dirons que la raison pour laquelle Ravina a permis ce vin, c'est parce qu'il était d'accord avec l'enseignement de Rabbi Hanina. Donc, même si ce vin a été découvert à proximité d'un vignoble interdit, quand même, nous suivons la majorité des vignobles des alentours, qui sont des vignobles permis, et donc, ce vin ne provient pas d'une production de Orla, et ce vin sera permis. Lagma répond, nous n'avons pas de preuve d'ici que Ravina est d'accord avec l'enseignement de Rabbi Hanina. Shani Atam, là-bas c'est différent, de Imigniv Mina, s'il est vrai que cette personne a volé ses raisins de ce vignoble, Atznoe Begave Lomatznee, il n'aurait pas caché le fût de vin dans ce vignoble, parce que pour le produire, il aurait dû aussi le faire sur place. Il aurait eu peur d'être découvert par le propriétaire de ce vignoble. Forcément donc, nous pouvons estimer que le voleur qui a produit ce vin ne l'a pas produit dans le vignoble desquels il a volé ses raisins. Et c'est pour cela que nous pouvons suivre le principe de la majorité des vignobles qui sont permis. Et nous ne disons cela uniquement lorsque c'est du vin qui a été découvert. Avalinve, mais si l'on a découvert des raisins, matnee, dans ce cas, des voleurs peuvent le cacher dans le vignoble duquel ils l'ont pris. Il y a donc la possibilité qu'ils l'auraient volé de ce vignoble, dehors là, et donc il est possible que ces raisins soient interdits. Il y a là-dessus une discussion entre les Rishonim. Est-ce que dans ce cas, selon Rabbi Hanina, les raisins seraient permis ou non? Voir la Shitam Kubetset au nom du Aliot de Rabbi Yona, dans le Ramban et dans le Ran. Hanhu zike de chamra d'ishtakran bekupae. Il y a des outres de vin qui ont été découvertes entre des pieds de vigne d'un vignoble appartenant à Israël. Sharanhu Rava, Rava les a permises. La Gemara demande, Lema lo savarla, le de Rabbi Hanina. Peut-être est-ce que nous dirons que Rava n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rabbi Hanina, bien que plus haut, comme le précise le Tosfot, nous avons dit que Rava est d'accord avec l'opinion de Rabbi Hanina, parce que la Gemara comprenait ici que la majorité des producteurs de vin de la région étaient goy. Cependant, nous avons permis ce vin en suivant le principe de la proximité, et ce vin a été découvert dans un vignoble appartenant à Israël. La Gemara répond, Shani Atam, là-bas c'est différent. De Rouba, nous tournons.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On a page Adav Kavdal et Amudbet de Shvuchae, parce que là-bas dans la région, non seulement la majorité des producteurs de vin, mais même la majorité de ceux qui remplissaient les outres pour les vendre, Yisrael Inou, étaient des Israël. Par conséquent, c'est en appliquant le principe de la majorité que Rava a permis ce vin. La Gemara conclut, Vehanemile Beravreve, et quand ces choses sont dites, que dans ce cas, les outres de vin découvertes seront permises, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de grandes outres qui ont été remplies par les vendeurs de vin, dont la majorité sont Israël, comme nous l'avons dit. Aval zoutre, mais si ce sont des petites outres qui ont été découvertes, celles-ci seront interdites. Emur meovre drachim naful, parce que l'on peut dire que ces petites outres sont tombées d'un voyageur, et la majorité des voyageurs et des passants dans la région sont goy. Et cela, justement, se conformant à l'enseignement de Rabbi Hanina, nous appliquons donc le principe de la majorité, même si on pouvait appliquer le principe de la majorité selon lequel ce vin serait permis. Vei ika ravreve badayu, si avec ces petites outres qui ont été découvertes, il y en avait aussi des grandes, elles seront toutes permises. Et cela parce que emur beavrure hava manche, parce que nous pouvons dire que les petites outres ne sont pas tombées d'un voyageur, mais qu'elles ont été remplies par les producteurs de la région pour équilibrer les chargements des ânes. En effet, lorsque les producteurs de la région vendaient des grandes outres et chargeaient des ânes, puisque les grandes outres ne pesaient pas toutes le même poids, ils en remplissaient aussi de petites pour équilibrer le chargement. Il y a donc tout lieu de penser que toutes ces outres proviennent d'une seule et même personne et elles seront permises en suivant le principe de la majorité, comme nous l'avons expliqué. Nouvelle Mishnah. Marchikin et ha'ilan mina'ir esrim v'chamesh ama. Il faut éloigner l'arbre que l'on veut planter de la bordure de la ville d'une distance de 25 coudées, ou becharouv ou bechikma. Et si cette personne veut planter un caroubier ou un sycomore, c'est une sorte de figuier sauvage, chamishimama, il faudrait l'éloigner d'une distance de 50 coudées, parce que ces deux derniers arbres ont beaucoup plus de branches et qui s'étendent beaucoup plus loin. L'agmara expliqua pourquoi. Abba Shaul Omer, kol ilan tsrak chamishimama. Tout arbre qui ne produit pas de fruits, il faudra l'éloigner de la ville lorsqu'on veut le planter d'une distance de 50 coudées. Ve'im ha'ir kadma, si c'est la ville qui existait avant que l'arbre a été planté, kotset ve'enonotem damim. Alors cette personne devra couper son arbre qu'il a planté trop proche de la ville et on ne lui donnera pas d'argent pour le dédommager pour la perte de son arbre. Ve'im ilan kadam, et si c'est l'arbre qui a été planté avant que la ville existe en cet endroit, c'est-à-dire cette personne a planté l'arbre assez loin de la ville, puis celle-ci s'est étendue pour être trop proche de l'arbre, kotsetz venoten damim. Il devra couper son arbre, mais on lui donnera de l'argent pour le dédommager pour la perte de son arbre. Safek zekadam ve safek zekadam. S'il y a un doute à savoir si c'est celui-ci qui était en premier ou l'autre qui était en premier, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est la ville qui existait avant l'arbre ou si c'est l'arbre qui existait avant la ville, Kotzet ve'enonoten damim, il devra couper son arbre, mais on ne lui donnera pas d'argent pour le dédommager pour la perte de son arbre. L'agmara expliquera. Alors l'agmara demande, Maïtama, pourquoi faut-il éloigner l'arbre de la bordure de la ville? L'agmara répond, Amarula mishum noye ha'ir. C'est à cause de la beauté de la ville. C'est-à-dire, la ville sera plus belle s'il existe un espace vide entre elle et les plantations. Et c'est pour cela donc qu'il faudra éloigner les arbres d'une distance de 25 coudées de la ville pour laisser un espace libre entre la ville et les plantations. Alors la Gemara demande, Vetipukle, on devrait de toute façon interdire de planter un arbre à proximité de la ville, pas seulement à cause de la beauté de la ville, mais de en osin sademigrash, parce qu'il est interdit de transformer un champ de culture en terrain vague, velo migrash sade, et ni un terrain vague en champ de culture. C'est-à-dire, à la fin de Maseret Erechin, d'Aflamet Gimel Amudbet, il est enseigné une Mishnah, comme quoi, en plus des villes qui ont été données aux Leviim, il faudra leur donner un espace d'un rayon de 1000 coudées autour de cette ville, qui seront des terrains vagues. Ils serviront notamment pour le pâturage des animaux. Puis, au-delà de cette limite, dans un rayon de 1000 coudées supplémentaires, on donnera aux Leviim des terrains pour qu'ils les cultivent, donc pour qu'ils aient des champs à cultiver. Il est enseigné là-bas aussi que l'arrangement est le même pour les villes d'Ebné Israël. Puis la Mishnah enseigne qu'il est interdit de transformer ces terrains, c'est-à-dire celui qui est destiné à être terrain vague, donc dans un rayon de 1000 coudées autour de la ville, devra rester terrain vague. Il est interdit de le transformer en champ de culture. Et les terrains destinés à être champs de culture aussi n'ont pas le droit d'être transformés pour en faire des terrains vagues. Donc finalement, puisque dans un rayon de 1000 coudées autour de la ville, il est interdit de planter quoi que ce soit, il est aussi interdit de planter des arbres. Donc non seulement dans un rayon de 25 coudées autour de la ville, il est interdit de planter des arbres, mais dans un rayon de 1000 coudées autour de la ville. L'agma répond, la tzricha, le Rabbi Elazar. Nous n'avons eu besoin de l'enseignement de cette Mishnah uniquement selon l'opinion de Rabbi Elazar. De Amar qui dit que c'est uniquement dans les villes qui ont été données au Leviim qu'il est interdit de transformer les terrains vagues en champs de culture et vice-versa, mais pour les villes appartenant au Bnei Israël, au Sin Sade Migrash ou Migrash Sade, il est permis de transformer un champ de culture en terrain vague, et il est aussi permis de transformer un terrain vague en champ de culture. Finalement, selon Rabbi Elazar, il sera donc permis de planter un arbre ou n'importe quoi, même dans un rayon de 1000 coudées autour d'une ville, s'il n'appartient pas au Leviim. Haha, la Mishnah nous enseigne ici que Mishum Noye Ha'ir, à cause de la beauté de la ville, Lo Avdinan, il est interdit de planter des arbres dans un rayon de 25 coudées autour de la ville. Ou le Rabbanan Nami de Amre Enosin Sade Migrash, Velom Migrash Sade, et même selon les Chachamim qui disent qu'il est interdit de transformer un champ de culture en terrain vague, et ni un terrain vague en champ de culture, Hanemi Le Ezraim, quand ces choses sont dites, qu'il est interdit de planter quoi que ce soit autour d'une ville dans un rayon de 1000 coudées, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de culture, de graines. Aval ilanot avdinan. Mais il sera permis de planter des arbres. Et cela parce que cet espace de 1000 coudées tout autour de la ville, qu'on doit laisser libre, donc sans culture, est destiné notamment au pâturage et pour tous les autres besoins de la ville, par exemple pour les promenades, etc. Le fait d'y planter des arbres n'empêchera pas de les utiliser ainsi. Umenatemra de Shani Benzraïn Leilanot. Et d'où sait-on qu'il existe une différence entre les cultures et la plantation des arbres? L'agma répond de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta concernant l'interdiction de porter le Shabbat. En effet, Minatora, il est interdit de porter d'un domaine public à un domaine privé, ou vice-versa, il est aussi interdit de porter dans un domaine public. Les Chachamim ont interdit de porter dans tout domaine qui ne peut pas être considéré comme habitation au sens large du terme, comme une cour. Donc par exemple, dans un champ cultivé, il est interdit de porter, même si celui-ci est entouré d'une clôture. À moins que la superficie de ce terrain soit plus petite que la surface de 2 CA, il s'agit d'un rectangle de 100 coudées sur 50 coudées, donc environ 60 sur 30 mètres, soit 1800 mètres carrés. Alors la braïta dit, Karpaf yotermi betsataim, un terrain vague d'une superficie de plus de 2 CA, donc de plus de 1800 mètres carrés, chez Oukaf le dira, qui a été entouré d'une clôture pour en faire une habitation au sens large du terme, donc pour en faire une cour ou un parc, Nizra Rubo, puis la majorité de ce terrain a été semé. Hareu Kegina, il est dès lors considéré comme un jardin, c'est-à-dire il perd son caractère d'habitation, ve'asur, il est interdit de porter dans ce terrain. Nitarubo, mais si la majorité de ce terrain a été planté d'arbres, hareu kechatser, celui-ci est toujours considéré comme une cour, c'est-à-dire il sera toujours considéré comme une habitation au sens large du terme, ou mutar, il sera donc permis de porter dans ce terrain. Donc nous voyons dans cette braïta, comme l'explique le Shitamuku Betset au nom du Rimigash, le fait de planter des arbres dans un terrain n'est pas considéré comme une transformation de celui-ci. Donc même lorsque la Torah a exigé de laisser un espace libre de 1000 coudées tout autour d'une ville, le fait d'y planter des arbres ne sera pas considéré comme une transformation. Il n'y aura pas donc de transgression de cette interdiction de la Torah. Et c'est pour cela que la Mishnah a eu besoin de nous enseigner qu'il est interdit de planter des arbres dans un rayon de 25 coudées autour de la ville. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'imahir kadma » si la ville existait avant l'arbre, « Kotsetz ve'nonoten damim » le propriétaire de l'arbre devra le couper et on ne lui donnera pas d'argent pour les dédommager pour la perte de l'arbre. Alors la Gemara demande « Ma'ishna gabebor » pourquoi concernant le puits duquel il faut éloigner l'arbre qu'on veut planter d'une distance de 25 coudées pour ne pas que les racines qui pousseront par la suite abîment ce puits. En décatané, à propos de ce cas, il a été enseigné dans une Mishnah, plus loin d'Afkafé Amoudbet, que celui qui plante l'arbre sans respecter cette distance, Kotsetz Venoten Damim, il devra couper son arbre et le propriétaire du puits devra lui donner de l'argent pour le dédommager pour la perte de son arbre. Bien que le propriétaire de l'arbre n'avait pas le droit de planter son arbre ici. Ou Maïjana Achai, pourquoi ici des Katane Kotsetz Venoten Damim? Il est enseigné dans notre Mishnah que lorsque la personne avait planté son arbre trop proche de la ville, il devra le couper et il ne recevra pas d'argent pour être dédommagé pour la perte de son arbre. En d'autres termes, pourquoi dans le cas du puits, le propriétaire de l'arbre sera dédommagé pour la perte de son arbre, même s'il n'avait pas le droit de le planter, alors que dans le cas de la ville, le propriétaire de l'arbre ne sera pas dédommagé pour la perte de son arbre? Amar Rav Kahana, Rav Kahana a dit, donc il a rapporté ce proverbe pour répondre à cette question. Kidra de Beshutfe, Lochamima Velokrira. Une casserole appartenant à des associés ne sera ni chaude ni froide. C'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont associées, donc responsables, pour s'occuper de quelque chose, par exemple, la cuisson d'une casserole, chacun remet la responsabilité à l'autre, finalement, elle ne sera ni chaude ni froide. Et c'est pour cela que dans le cas de l'arbre qui se trouve trop proche de la ville, puisque la responsabilité de le faire couper incombe à tous les habitants de la ville, si en plus il fallait payer, chacun remettrait la responsabilité à l'autre, et cet arbre ne serait pas coupé. Finalement donc, cette institution de respecter la beauté de la ville, qui a été instituée par les Chachamim, ne serait pas respectée. Et c'est pour cela donc que les Chachamim ont dispensé les habitants de la ville de dédommager le propriétaire de l'arbre pour la perte de son arbre, s'il n'avait pas le droit de le planter. Alors que dans le cas du puits, le propriétaire du puits devra dédommager le propriétaire de l'arbre, même s'il est vrai qu'il aurait dû respecter cette distance de 25 coudées. Cependant, les Chachamim ont institué qu'il soit dédommagé pour cet arbre, parce que comme l'explique le Tosfot plus haut, Daf Yutret Amudbet, la perte de cet arbre représente pour lui une grosse perte. Et le fait de ne pas avoir respecté les précautions imposées par les Chachamim n'est pas une raison suffisante pour lui faire subir cette perte. Alors la Gemara demande, Umay Kushia, et quelle était la question? C'est-à-dire pourquoi avons-nous eu besoin de cette réponse de Rav Kahana, en employant ce proverbe, Dilma Shani Ezeka de Rabim, mais Ezeka de Yachid, peut-être qu'il existe une différence entre les dommages causés à un public et ceux causés à un particulier. C'est-à-dire, il existe une différence simple entre le cas de l'arbre à proximité d'un puits, où il s'agit de dégâts causés à un particulier, et c'est pour cela que les Chachamim ont institué que le propriétaire du puits dédommage le propriétaire de l'arbre pour la perte de son arbre, et le cas de l'arbre à proximité de la ville où il s'agit de dégâts causés à une ville, à un public. Et c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas institué que le propriétaire de l'arbre soit dédommagé pour la perte de son arbre. Donc finalement, sans arriver à la réponse de Rav Kahana, nous n'avons pas de question. Et là, c'est pour cela que la Gemara sera vis-à-vis dit « Itmar de Rav Kahana ». S'il a été dit cette réponse de Rav Kahana, donc si Rav Kahana a donné cette réponse, Asefa Itmar, il l'a dit sur la fin de la Mishnah, donc pour expliquer la fin de la Mishnah. En effet, il est enseigné dans la fin de la Mishnah, Imailan Kadam, si l'arbre existait avant la ville, Kotsetz Venoten Damim. Il devra couper son arbre pour ne pas gêner le paysage, mais les habitants de la ville devront lui donner de l'argent pour le dédommager pour la perte de son arbre. En fait, dans la Mishnah, nous voyons que tout d'abord, il devra couper son arbre, et c'est seulement après qu'il pourra exiger d'être dédommagé. Velemaleu. La question se pose. Le propriétaire de l'arbre pourrait dire aux habitants de la ville, « Havu libere shadme, d'abord, donnez-moi l'argent pour me dédommager pour la perte de mon arbre, ve'adar ikutz, et c'est seulement après que je couperai mon arbre, puisque finalement, lorsque j'ai planté mon arbre, j'en avais tout à fait le droit. » Alors là-dessus, Amar Rav Kahana, Rav Kahana a dit, pour répondre à cette question, « Kidra de beshutfe lo chamima ve lo kira. » Une casserole appartenant à des associés ne sera ni chaude ni froide. C'est-à-dire, lorsque plusieurs personnes sont responsables pour faire quelque chose, par exemple, sont responsables de la cuisson d'une casserole, chacun remet la responsabilité à l'autre, et finalement, cette action n'est pas faite. Donc, cette casserole ne sera ni chaude ni froide. Alors, les Chachamim aussi n'ont pas voulu que le propriétaire de l'arbre tire parti de cette situation, où les habitants de la ville devront le payer, et chacun remettra la responsabilité à l'autre, et finalement, personne ne le payera. Et finalement, il tirera cette situation à son avantage, parce que tant qu'il ne sera pas payé, il ne coupera pas son arbre. Ils ont donc institué qu'il devra tout d'abord couper son arbre, et puis, après cela, il attaquera les habitants de la ville en justice pour se faire dédommager pour la perte de son arbre. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Safek zekadam, vesafek zekadam, kotsetz veino noten damim ». S'il y a un doute, si c'est l'arbre qui a été planté en premier, ou bien si c'est la ville qui existait ici en premier, le propriétaire de l'arbre devra couper son arbre et il ne recevra pas d'argent pour être dédommagé pour la perte de son arbre. Alors la Gemara demande, Maishna Mibor, quelle différence y a-t-il entre le cas du puits à proximité duquel a été planté un arbre, Dehamart, à propos duquel la Mishnah nous enseigne plus loin, Dafkafe Amudbet, Loyakutz, que dans le cas d'un doute, il n'aura pas l'obligation de couper son arbre. La Gemara répond, Hatam, dans le cas de l'arbre à proximité du puits, Devadai, Lavlemikatskae, ou si nous étions sûrs que l'arbre a été planté en premier, le propriétaire de l'arbre n'a pas l'obligation de le couper. Sfekon ami lo amrinan lehkutz. Dans le cas où nous avons un doute, si c'est l'arbre qui existait en premier ou le puits qui existait en premier, on ne lui dira pas de couper son arbre. En d'autres termes, on lui accordera le bénéfice du doute. Hacha devadai lemikatskae. Mais dans notre cas de l'arbre à proximité de la ville, ou même si l'arbre a été planté en premier, le propriétaire de l'arbre a quand même l'obligation de le couper, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Sfekan ami amrinan lehkutz. Même dans le cas d'un doute, on lui dira, coupe ton arbre. Ve'i mishum de me. Et si c'est à cause de l'argent qu'il peut exiger pour être dédommagé pour la perte de son arbre, amrinan le, on lui dira par la suite, aiteraya, amène une preuve comme quoi ton arbre a été planté avant la ville, ou je colle, et prends ton argent. En d'autres termes, puisque de toute façon il doit couper son arbre, alors il devra le couper. Et c'est seulement s'il pourra apporter une preuve comme quoi son arbre était là avant la ville qu'il pourra exiger d'être dédommagé pour la perte de son arbre. Nouvelle Mishnah. Marchikin et agoren kavua min ha'ir chamishimama. Il faut éloigner une grange fixe où l'on vanne les céréales de la ville d'une distance de 50 coudées. Parce que sans cela, la vanure serait emportée par le vent et gênerait les habitants de la ville. Lo yase adam goren kavua betor shelo. Un homme n'aura pas le droit d'installer une grange fixe où l'on vanne les céréales dans son domaine, et là, imken eshlo chamishim amal chol ruach, à moins d'avoir un rayon de 50 coudées tout autour de cette grange. Et cela pour ne pas que la vanure emportée par le vent gêne les voisins. Umarik menetiotav shel chavero ou meniro, il devra s'éloigner pour vanner des céréales, des plantations de son prochain et de ses sillons lorsqu'il a labouré son champ en l'été pour enlever les mauvaises herbes, bikde shelo yazik, d'une distance suffisante pour ne pas gêner son voisin. Apparemment donc, d'une distance de moins de 50 coudées. Alors la Gemara demande, Maishna Risha ou Maishna Sefa, quelle différence y a-t-il entre le premier cas de la Mishnah et le dernier cas de la Mishnah? Pourquoi est-ce qu'au début la Mishnah enseigne qu'il faut s'éloigner d'une distance de 50 coudées de la ville et de ses voisins, alors que dans le dernier cas de la Mishnah, il est enseigné qu'on peut se suffire d'une distance de moins de 50 coudées? La Gemara répond à Marabaye, Sefa Atan le Goren Sheno Kavua. Dans la fin de la Mishnah, il s'agit d'une grange qui n'est pas fixe. Alors la Gemara demande, Hechidami Goren Sheno Kavua, comment se présente le cas d'une grange qui n'est pas fixe? La Gemara répond, Amarabi aussi Barabi Hanina. La grange pas fixe, c'est toutefois où cette personne ne vanne pas ses céréales avec un vent, avec lequel on jette les céréales en l'air, et c'est le vent qui emporte la vanure. C'est-à-dire, à chaque fois où il s'agit d'une petite quantité de céréales, qu'on n'a pas besoin de jeter en l'air, mais simplement en laissant le tas de céréales, le vent éparpille la vanure, celle-ci n'est pas emportée au loin, Par conséquent, elle ne gênera pas les voisins, même s'ils ne s'est pas éloigné d'une distance de 50 coudées. Mais lorsqu'il s'agit d'une grange fixe où l'on vanne les céréales avec un vent, la vanure est donc emportée au loin et gêne les voisins s'ils ne s'éloignent pas d'une distance de 50 coudées de la ville ou des plantations de ses voisins. Rabashi Amar, Matam Kamar. Il ne s'agit pas d'un autre cas dans la Mishnah, mais à la fin de la Mishnah, celle-ci veut expliquer la raison pour laquelle il faut s'éloigner d'une distance de 50 coudées. Maïta, Marikin, Goren, Kavua, Minaï, Hamishimama. Pourquoi faut-il éloigner la grange fixe de la ville d'une distance de 50 coudées, que dès le Hazik, c'est pour ne pas gêner ses voisins. Métivé, on a opposé une Braïta à l'une de ses interprétations de la Mishnah. En effet, la Braïta dit, Marikin, Goren, Kavua, Minaï, Hamishimama. Il faut éloigner la grange fixe de la ville d'une distance de 50 coudées, ou que Shem, Shem, Marikin, Minaï, Hamishimama, de la même manière qu'il faut s'éloigner de la ville d'une distance de 50 coudées, car Marikin, Mideluav, ou Mikshuav, ou Minetiotav. Ainsi, il faudra aussi s'éloigner des courges et des potirons et des autres plantations ou minéraux et des sillons chez le chavero de son voisin, Hamishimama, d'une distance de 50 coudées, que des chleazik, pour ne pas causer des dégâts. Alors, Bish, Lama, les Rabashi, Nicha, on comprend bien encore cette Braïta selon l'opinion de Rabashi. Il n'y a donc pas de question pourquoi ici la Braïta ne fait pas de différence entre la ville et les plantations de son voisin. Elle allait abayer, mais selon Abaye, Kashia, nous avons une question. Pourquoi est-ce que la Braïta ne mentionne pas aussi le cas de la grange qui n'est pas fixe, où il n'est pas besoin de s'éloigner d'une distance de 50 coudées, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, selon cette interprétation de Abaye? La Gemara conclut là-dessus. Kashia, c'est une question. La Gemara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Alors, la Gemara va maintenant expliquer la Braïta. Bishlama mikshuav ou midluav. On comprend bien encore pourquoi il faut s'éloigner d'une distance de 50 coudées des potirons ou des courges de son voisin pour vanner ses céréales. De azilavka veate belibé. Parce que la vanure emportée par le vent va se fixer sur les fleurs des potirons et des courges, ou matzvele, et les fera sécher, c'est-à-dire empêchera le développement des fruits. Et la miniro, mais des sillons de son voisin, Amai, pourquoi faut-il s'éloigner pour vanner son blé? L'agma répond, Amar Abba Barzabda Vitema Rav Abba Barzutra Mipne.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.